Thank you for having me today. Donc bonjour tout le monde. So sorry for the English speakers because I will. I'm sorry to say that I will give my presentation in French. Sorry about that. But I hope that my English slides are clear enough. And of course, I'll be happy to answer questions both in English and French at the end of my presentation. Donc pour continuer en français, donc cette fois-ci ma présentation va se porter un petit peu plus sur le point de vue des ongulés parce que c'est important de comprendre comment les ongulés répondent aux changements dans leur environnement pour pouvoir prédire leur impact sur leur environnement comme l'a montré Walter ce matin. Et donc du coup ma présentation va se porter sur la façon dont les grands herbivores gèrent le risque face à différents types de prédateurs dans ce qu'on appelle le paysage de la peur. Donc pour mieux comprendre le contexte de cette question, j'ai voulu introduire de façon un petit peu large que les populations sauvages doivent aujourd'hui faire face à un nombre croissant de perturbations qui sont liées aux activités humaines. Donc c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Et les activités humaines sont liées à l'agriculture, à l'élevage, à la fragmentation du paysage ou encore à l'urbanisation. Et donc toutes ces modifications qui sont liées aux activités humaines vont profondément impacter les populations sauvages. Et donc dans ce monde anthropisé, les populations sauvages doivent donc s'adapter ou sont vouées à disparaître. Et en effet, il y a certaines espèces qui ont du mal à s'adapter aux changements qui sont imposés par les activités humaines, donc ces espèces-ci. Et alors qu'il y a d'autres espèces qui arrivent relativement bien à s'adapter, qui arrivent à prospérer à proximité des activités humaines, donc c'est ce qu'on appelle des espèces synanthropiques. Et donc pour ces espèces qui sont dites synanthropiques et qui arrivent à prospérer à proximité des activités humaines, il y a forcément des avantages à vivre dans un environnement anthropisé, notamment du fait de l'apport de ressources de qualité en quantité, qui sont généralement fournies par de tels environnements, mais aussi grâce à la suppression des prédateurs. Mais du coup, ces bénéfices sont contrebalancés par des coûts qui sont liés à la proximité aux humains, parce que les activités humaines sont aussi des sources importantes dérangements et de mortalité, notamment via les activités de chasse, de modification du paysage ou encore les phénomènes d'épizoonose. Donc, le problème, c'est que ces coûts et ces bénéfices ne sont pas distribués aléatoirement dans le paysage. Donc, cela crée un paysage hétérogène des risques et des ressources pour les populations proies. Et donc pour mieux comprendre comment les animaux gèrent ces coûts et ces bénéfices liés à l'utilisation d'environnements anthropisés, on a d'abord besoin de comprendre comment les populations sauvages se comportent en l'absence de risque. Donc dans un monde sans risque, un animal devrait utiliser le paysage en fonction de la distribution des ressources uniquement. Donc c'est ce qu'on appelle le paysage énergétique. Mais parce que les habitats les plus riches sont aussi généralement les plus risqués, les animaux doivent donc faire des choix entre accéder à une ressource de qualité ou éviter le risque et obtenir une ressource de moins bonne qualité. Donc ils doivent donc faire un compromis entre éviter les risques et acquérir les ressources. Et donc dans ce cas, l'utilisation du paysage ne sera plus uniquement dirigée par la distribution des ressources, mais aussi par la distribution spatiale des risques dans le paysage, et c'est ce qu'on appelle le paysage de la peur. Donc pour comprendre comment les prédateurs peuvent générer un paysage de la peur chez leur proie, il faut comprendre qu'il existe deux types d'effets que les prédateurs peuvent avoir sur leur proie. Donc les effets directs létaux, où les prédateurs prélèvent directement un certain nombre d'individus dans la population et réduisent donc la densité de cette population. Et les effets indirects, donc non létaux, qui sont induits par la peur générée par les prédateurs sur leur proie. Et donc cette peur engendre des modifications comportementales des proies pour éviter le risque de prédation. Donc la modification de ces comportements peut évidemment avoir des conséquences en cascade sur les écosystèmes, et donc notamment lorsqu'il s'agit d'espèces clés telles que le chevreuil, le cerf ou le sanglier, les grands herbivores en général, qui sont connus pour être de véritables ingénieurs des écosystèmes. Et donc les modifications comportementales qu'on peut généralement voir qui peuvent être adoptées par les proies en réponse au risque de prédation, ça peut être l'augmentation des tailles de groupe ou la modification du comportement spatial où les proies vont éviter les zones où le risque de rencontre avec les prédateurs sont les plus élevés. Ou ça peut aussi être un ajustement des patrons d'activité, par exemple les animaux peuvent devenir plus nocturnes pour éviter les risques et les dérangements qui sont liés aux activités humaines durant la journée. Donc au final, dans les deux cas, que ce soit via les effets directs ou les effets indirects, cela résulte en une diminution de la densité des populations proies. Et donc le système se complique un peu plus lorsque d'autres prédateurs interviennent, et notamment si ces nouveaux prédateurs ont des modes de prédation différents. Donc dans ce cas, les proies doivent s'ajuster aux différents risques qui sont posés par les différents prédateurs. Donc pour illustrer cela, je vais vous présenter une étude que j'ai réalisée lors d'un passage en Suède, pendant mon postdoc, qui consistait à étudier le retour des grands prédateurs en Europe. Et donc en effet, après avoir été éradiqués dans la majeure partie de l'Europe, il y a des grands prédateurs tels que le lynx et le loup qui tendent à revenir dans certaines régions, même relativement anthropisées, et ces prédateurs ont de forts impacts sur les populations d'ongulés sauvages. Et donc notamment, le retour du lynx a eu un impact majeur sur les populations de chevreuil, qui est sa proie principale, en influençant fortement la démographie et la dynamique des populations. Mais le problème, c'est qu'on connaît peu de choses sur l'impact que peut avoir le lynx sur le comportement des chevreuils. Donc c'est à cette question que je me suis intéressée, en demandant notamment si les chevreuils sont capables de s'adapter au retour du lynx. Et pour étudier cette question, je me suis intéressée aux patrons d'activité journaliers, c'est-à-dire qu'on a regardé la variation temporelle des niveaux d'activité des chevreuils au cours d'une journée. Et on a comparé ça dans différentes populations de chevreuils qui sont réparties à travers l'Europe, grâce à une base de données donc, d'activité qui est disponible dans un réseau Eurodir, qui est un réseau de travail qui regroupe des différents groupes de chercheurs qui partagent des données sur GPS et d'activité. Et donc du coup, dans ce cas-là, on s'est intéressé au rythme d'activité journalier, car c'est un comportement anti-prédateur qui est clair, qui est basé sur des hypothèses simples et qui nous permet donc ici de tester l'effet de la présence du lynx sur le comportement des chevreuils. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc notre hypothèse, c'était que dans les milieux anthropisés, les chevreuils sont généralement vus comme une espèce plus nocturne, donc il y a des pics crépusculaires, mais ils sont généralement plus actifs de nuit, et le jour ils sont beaucoup moins actifs, certainement pour éviter les activités humaines. Et le problème, c'est que le lynx, c'est aussi un animal qui est nocturne, donc si les chevreuils veulent adapter leur rythme d'activité au risque qui est posé par le lynx, ils devraient modifier leur activité, leur patron d'activité, pour devenir... Pour devenir donc plus actif de jour pour éviter le risque de prédation la nuit. Donc du coup, c'est ce que nous avons voulu tester comme hypothèse. Et donc nous avons comparé les patrons d'activité des chevreuils en saison de chasse et hors chasse pour regarder la réponse au risque humain et dans des populations avec ou sans lynx pour regarder la réponse au lynx. Et donc ce qu'on peut voir en premier lieu, c'est qu'il y a bien un effet de la chasse, puisque systématiquement, en période de chasse en orange, les chevreuils sont moins actifs de jour que hors période de chasse en vert. Donc cela montre que les animaux sont capables d'ajuster leur patron d'activité pour éviter les dérangements humains, et notamment liés à la chasse, qui sont plus importants durant la journée. Et alors concernant l'effet du lynx, on a fait une moyenne des niveaux d'activité de jour et de nuit, et on voit qu'en absence de lynx, les animaux ont tendance à être plus actifs de nuit et moins actifs de jour, alors que quand il y a des lynx présents à proximité, les chevreuils shiftent leur patron d'activité pour devenir plus actifs de jour. Donc cela suggère que les chevreuils ajustent bien leur niveau d'activité au risque de prédation et qu'il existe un compromis dans le degré de diurnalité entre évitement des activités humaines et évitement du risque de prédation par le lynx. Donc, comme je vous ai dit en introduction, pour mieux prédire l'impact que peuvent avoir les prédateurs sur le comportement des proies et donc indirectement sur les écosystèmes, il est important de savoir comment les herbivores se comportent en l'absence de risque de prédation, donc lorsqu'il n'y a pas de peur du tout. Et donc, pour étudier cette question, je me suis intéressée à une population de cerfs à queue noire sur les îles de Colombie-Britannique. Donc, ce sont des cerfs qui ont été réintroduits sur l'archipel d'Aïda Gwaï au 19e siècle. Et donc, l'intérêt de ces populations, c'est qu'elles sont libres de tout risque de prédation. Il n'y a pas d'humains, pas de prédateurs sur ces îles. Donc cela nous permet d'étudier des cerfs qui n'ont jamais connu de prédateurs. Et donc ces îles représentent une situation du coup, qui est quasi expérimentale pour étudier les comportements des ongulés et les conséquences indirectes que cela peut avoir sur les écosystèmes. Et donc pour présenter rapidement ces îles, Donc on a deux îles qui s'appellent East Limestone et Kunga, qui sont des îles avec une très forte densité de serres à queue noire, plus de 40 serres par kilomètre carré, ce qui évidemment résulte en une forte pression d'abrutissement avec une réduction de plus de 90% du sous-étage forestier. Et cela a également forcément des conséquences en termes d'abondance et de diversité des communautés d'insectes et d'oiseaux. Et donc du coup, on a étudié le comportement des serres à queue noire sur ces îles grâce à des suivis GPS. Et du coup, puisque sans risque de prédation, les animaux n'ont pas besoin de faire de choix entre acquérir des ressources ou éviter les risques, sur ces îles, on s'attend à ce que leur comportement soit uniquement influencé par les variations dans la distribution des ressources. Et c'est effectivement ce qu'on a observé, puisque effectivement, en termes de comportement spatial, on a étudié les patrons de sélection des habitats, et effectivement, les cerfs sont plus intéressés, ont tendance à avoir plus sélectionné des patchs plus riches, avec plus de diversité de ressources, mais au contraire, ils ont tendance à éviter des patchs où il n'y a pas de ressources alimentaires. Donc par la suite, on s'est intéressé encore une fois aux patrons d'activités journalières, et on voit que sur ces îles, en l'absence de prédation, les animaux ont tendance à être bien plus actifs de jour que de nuit. Donc cela contraste avec les patrons qu'on a vus auparavant. Mais cela contraste aussi avec une autre île, donc Riff, qui est une île où on a introduit de la chasse pour l'expérimentation. Et on voit que les patrons sont très différents entre les patrons d'activité sont très différents entre des îles qui sont pourtant géographiquement très proches. Donc par rapport à des îles non chassées, sur Riff, les cerfs ont réduit leur activité de jour et augmenté leur activité de nuit pour être quasiment, pour être actifs constamment de jour comme de nuit. Donc en conclusion, les cerfs ont bien ajusté leur patron d'activité à l'absence de prédateurs en devenant plus durs. Et donc, comme je vous disais, Riff est la seule île de l'archipel sur laquelle il y a eu de la chasse qui a été induite expérimentalement pour pouvoir comparer l'effet que ça pouvait avoir par rapport aux deux autres îles. Et donc, on vient de voir que les cerfs modifient leur comportement entre les îles chassées et non chassées. Et c'est sur cette photo-là qu'on peut voir également que cela a un effet sur la végétation. Puisque ici, c'est une photo en 1996, avant qu'il y ait de la chasse qui soit induite. Et ici, c'est en 1996, il y a eu la chasse qui a réduit, on a réduit la densité à moins de 10 serres par kilomètre carré. Et on peut voir l'impact que cela a eu sur, 10 ans plus tard, on peut voir que le sous-étage forestier a fortement évolué. Donc pour conclure, ce genre d'étude montre bien l'importance d'étudier les interactions entre les prédateurs et leurs proies et les conséquences en cascade que cela peut avoir sur l'environnement. Et je pense que c'est particulièrement important de faire ce genre d'étude dans le but d'une meilleure gestion des populations et des écosystèmes, et particulièrement dans le cadre du retour des grands prédateurs dans les milieux anthropisés, comme c'est le cas, ça peut être le cas en Europe. Et donc ces effets cascades ont été relativement bien étudiés dans le cadre du retour du loup dans le parc du Yellowstone aux États-Unis, avec les loups qui ont un impact important à la fois sur la densité et sur le comportement des cerfs, et cela a eu des conséquences en cascade sur les écosystèmes. Mais en comparaison, cela a été relativement peu étudié dans des contextes plus anthropisés, comme on peut en trouver un peu partout en Europe, et on a besoin de plus d'études pour mieux comprendre les effets cascades qui sont liés au retour des grands prédateurs dans ce genre d'environnement. Voilà, je vous remercie de votre attention.